France Inter.
Bonsoir Kevin Dufraîche.
Bonsoir.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, un nouveau coup de rabot sur les dépenses publiques.
Il faut trouver 10 milliards d'euros supplémentaires pour contenir le déficit qui va rester malgré tout supérieur à 5% du PIB cette année. Il n'y a pas de plan caché ni de hausse d'impôts, assure le ministre du Budget. Explication dès le début de ce journal.
Et les autres titres, Kevin ?
À peine présentés, les opposants au projet de loi sur la fin de vie et l'aide à mourir déjà mobilisés aujourd'hui. Vous entendrez la parole d'une des rares humanitaires qui travaille toujours en Haïti où la situation est toujours très difficile. Elle appelle des magistrats à leur ministère. Ils veulent que soit rendu public un audit sur les besoins en effectif dans leur profession.
Et on en parle avec Ludovic Fria. Il est le président de l'Union syndicale des magistrats et c'est l'invité de ce journal.
Et puis un festival de courts-métrages qui recourt à l'intelligence artificielle. C'est une première.
Dans le 18-20 ce soir, il y a l'Irlande qui vient de changer de Premier ministre. C'était hier et qui essaye de reprendre de l'élan et vous allez voir que c'est pas si simple. Ce soir, nous sommes aussi au Maroc, dans l'Atlas, en plein centre du pays, donc très loin de la mer, mais c'est bien là justement que l'on repousse les candidats à l'exil. Kevin, vous nous direz que l'autorisation du cannabis récréatif en Allemagne ne concernera pas l'Oktoberfest, la fête de la bière de Munich. Vous ferez connaissance avec Marcus Pieper dans Le Monde à 18h50. Vous ne savez pas qui c'est normal, mais Ursula von der Leyen, elle sait qui c'est, croyez-moi, c'est son vrai souci. Et puis Corinne Pellissier va nous présenter l'homme qui représente désormais le cinéma japonais. En deuxième heure, c'est le téléphone sonne. On discute avec Madame Hoffman ce soir et avec Sébastien Lifshitz aussi ce soir. Il est documentariste, elle est cadre infirmière, il l'a filmée. Elle raconte son hôpital, elle raconte ses fatigues, ses joies aussi. Racontez-lui votre service public à vous, celui qu'on voudrait garder et qui a tellement de peine à tenir debout.
France Inter.
Ça ressemble donc à un jour sans fin pour le gouvernement.
Il faut trouver 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires sur le budget de 2024. Voilà ce que dit Bercy aujourd'hui. Et si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal, puisque c'est déjà ce que le ministère de l'Économie et des Finances disait il y a un peu moins de 2 mois. 10 plus 10, ça fait donc 20 milliards à trouver au total. Bonsoir Mathilde Deyimi.
Bonsoir Kevin.
Sait-on ce soir, Mathilde, où ces 10 milliards d'euros supplémentaires donc vont être pris?
Alors il y a des pistes, ces nouveaux 10 milliards à trouver sont déjà bien balisés, veut rassurer Bercy, qui justifie ce trou supplémentaire à combler par la forte dégradation des comptes publics en 2023. En gros, c'est moins bien que prévu, on part de plus loin. Il va donc falloir faire dès maintenant plus d'efforts, vu que l'objectif 2027 reste lui le même, c'est-à-dire passer le déficit sous les 3% de richesse nationale. Cet après-midi, devant les sénateurs, Thomas Cazenave, ministre des Comptes publics, a détaillé quelques pistes qui reposent encore principalement sur les administrations et opérateurs de l'État.
D'abord, nous avons plus de 7 milliards d'euros de réserves de précaution au sein des ministères, précisément pour faire face à ces risques et ces difficultés. D'autre part, nous avons engagé un dialogue avec les collectivités territoriales parce qu'elles doivent, avec nous, participer à cet effort. Et enfin, nous n'excluons pas d'agir sur les rentes, c'est-à-dire la contribution sur les énergéticiens ou les rachats d'actions.
On a donc cette année 20 milliards à trouver pour atteindre les 5,1% de déficit. Il en faudra au moins 20 milliards d'autres l'an prochain et ainsi de suite jusque 2027, sachant qu'il sera de plus en plus dur de trouver des économies sans s'attaquer aux structures et sans toucher aux impôts, la ligne rouge fixée par le gouvernement, un exercice d'équilibriste.
Des économies, Mathilde, qui ne seront pas sans conséquences, notamment potentiellement sur la croissance.
Oui, fait quantifier ce matin même par les économistes de l'Observatoire français des conjonctures économiques. La croissance va être lestée par ces plans d'économie, perte de 0,2 points de richesse cette année, 0,6 l'an prochain. OFCE comme Bercy ont révisé ainsi à la baisse leurs prévisions de croissance. 2024 encore compliqué, 2025 plus de reprises. La baisse des taux de la Banque Centrale Européenne, le ralentissement de l'inflation devrait permettre la reprise des investissements immobiliers et en général plus de consommation des ménages qui ont gardé par devers eux ces dernières années beaucoup d'épargne.
Les explications de Mathilde Deyimi, service économie et sociale de France Inter. À 2 mois des élections, le Parlement européen adopte à l'instant le pacte sur la migration et l'asile qui durcit notamment les contrôles lors de l'arrivée des migrants aux frontières de l'Union européenne et met en place un nouveau système de solidarité pour l'accueil des demandeurs d'asile entre les 27. On y revient dans le journal de 19h.
Le cadre est définitivement posé autour de la loi sur la fin de vie.
Présenté ce matin en conseil Conseil des ministres par Catherine Vautrin, la ministre de la Santé, qui a rappelé qu'elle refuse toujours de parler de suicide assisté ou d'euthanasie, mais je cite, d'une aide à mourir avec des conditions strictes. Le débat au Parlement commencera au mois de mai. Il sera long, ça pourra prendre jusqu'à 2 ans pour aboutir. Les défenseurs de l'aide active à mourir trouvent le texte trop tiède quand ses opposants se mobilisaient déjà aujourd'hui, notamment le collectif Soulagé mais pas tué, Alice Cachaner, qui s'est rassemblée près de l'Élysée.
Le collectif rassemble des associations hétérogènes, des soignants, des personnes handicapées, également des pro-vie proches de la Manif pour tous. Au micro, les prises de parole se succèdent.
Ne laissons pas s'installer le désir de mort.
Carolina Leitao est atteinte de la maladie des os de verre. Elle est venue de Toulouse pour témoigner.
Nous, on a bien compris depuis notre plus tendre enfance qu'on dérange, qu'on est un poids. On est toujours en train de s'excuser d'être une charge pour eux. Alors si maintenant, quand on ne peut pas nous soulager la douleur, on nous propose de nous soulager en nous tuant, c'est terrible. C'est quoi cette société ?
Le projet de loi sur la fin de vie prévoit un encadrement strict des demandes de suicide assisté. Douleurs réfractaires, discernement plein et entier, pronostic vital engagé à court ou moyen terme. Autant de garde-fous qui ne rassurent pas Isabelle Mordant. Son fils est lourdement handicapé.
J'ai peur que le choix ne soit pas un choix libre. Une personne très handicapée, pour vivre, a besoin de beaucoup d'aide. Elle a besoin de soins, elle a besoin de traitements médicaux qui peuvent être très coûteux. Elle a besoin de matériel, elle a besoin d'assistance. Ça coûte très cher, ça pèse lourd sur les proches, sur la société en général. Et une aide à mourir, ce serait évidemment beaucoup plus facile à mettre en place.
Le collectif appelle à développer davantage les soins palliatifs et invite ses militants à écrire aux députés avant le débat parlementaire qui débutera en mai.
Alice Cachaner, est sur l'aspect politique, la ministre de la Santé a confirmé que les parlementaires du camp présidentiel auraient une totale liberté de vote sur ce texte.
L'État n'en fait pas assez pour remplacer les professeurs absents.
C'est ce que dit en substance le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en condamnant l'État à indemniser 8 familles, estimant que les heures perdues par leurs enfants leur ont été préjudiciables, des élèves scolarisés en l'occurrence dans l'académie de Versailles, même si le problème des profs absents non remplacés et national. Bonsoir William Delesseux.
Bonsoir Kevin.
Expliquez-nous, que dit précisément le tribunal ?
Les juges reconnaissent la responsabilité de l'État dans ce qu'ils appellent une rupture de continuité pédagogique pour les élèves concernés par ces cours non assurés. Il y a par exemple cette collégienne de Villeneuve-la-Garenne privée ces 2 dernières années scolaires de près de 150 heures d'enseignement en cumulé. Le tribunal reconnaît pour elle comme pour les autres une perte de chance de ces enfants concernés dans la réussite de leur année et de leur cursus scolaire futur. Pour cette perte de chance, chaque famille est indemnisée 150 euros, un montant avant tout symbolique pour maître Louis Lefoyer de Costil, avocat de 3 familles dans ce dossier.
Oui, ça reste en deçà de ce qu'on a demandé, de ce qu'on pourrait espérer. Mais bon, ça reste quand même une victoire parce que la faute de l'État est quand même reconnue et le préjudice d'enfant est quand même reconnu. Mais bon, après, sur les montants, on est quand même un petit peu loin du compte. Il faut aussi que les condamnations soient significatives pour que derrière, il y ait une vraie pression pour l'État et que quelque part, ça soit plus intéressant pour lui de mettre cet argent pour augmenter les profs, pour les recruter, plutôt que dans ces procédures.
Et l'avocat défend d'autres parents rassemblés dans un collectif en ligne appelé « On veut des profs ». Il y aurait d'après ce collectif 340 requêtes dans 20 d'académies sur 30. L'État pourrait donc être de nouveau condamné dans les prochaines semaines. À chaque tribunal administratif, ses critères, à Cergy-Pontoise, les juges ont calculé qu'à partir de 15% d'heures non effectuées dans une matière, il y avait un préjudice déterminant.
Et précision signée William Delesseux.
Pas de répit à Gaza pour la fin du ramadan.
Les musulmans fêtent l'Aïd el-Fitr aujourd'hui, mais l'armée israélienne a poursuivi ses frappes sur l'enclave palestinienne. Près de 33 500 personnes sont mortes à Gaza, d'après le ministère de la Santé du Hamas, depuis le 7 octobre. Et les attaques terroristes du mouvement islamiste qui ont fait près de 1 200 morts en Israël. L'Aïd, d'ordinaire synonyme de célébration et de repas de fête à Gaza, les fidèles ont prié aujourd'hui au milieu des ruines et tenté comme chaque jour de récupérer un peu de nourriture. Une situation humanitaire dramatique, c'est aussi ce que vivent les habitants d'Haïti, le pays le plus pauvre du monde, sans premier ministre ni véritable gouvernement pour le moment, même si un exécutif de transition doit être prochainement mis en place, contrôlé en grande partie par des gangs extrêmement violents. Pour France Inter, Valérie Crova a pu joindre l'une des rares ONG qui travaille encore sur place en Haïti.
Chaque jour, à bord d'une clinique mobile, l'équipe de l'ONG à Lima, composée d'un médecin, d'un infirmier, d'une sage-femme et d'un psychologue, sillonne les rues de Port-au-Prince, du moins quand c'est possible. Carlota Pianigiani était sur place il y a une semaine. Elle est coordinatrice des urgences chez Alima.
S'il y a des attaques, malheureusement, on doit suspendre les activités. Ce qui arrive assez souvent, mais nous arrivons quand même à offrir des soins assez régulièrement.
Les humanitaires restés sur place supplaient les établissements de santé, car la plupart ne fonctionnent plus dans la capitale haïtienne.
Certaines structures ont été directement attaquées. Par exemple, c'est le cas de l'hôpital général, qui est le plus grand hôpital public au milieu de Port-au-Prince. Ces structures-là, ensuite, ont été pillées, vandalisées. Et il y a aussi des structures qui, effectivement, sont pas fonctionnelles parce qu'il y a manque de tout ce qu'il faut.
Avec la fermeture du port et de l'aéroport il y a un mois, c'est toute la chaîne d'approvisionnement des médicaments qui est perturbée, avec une autre conséquence.
Vu la situation, les prix ont doublé, voire triplé. Et donc, et pour les organisations humanitaires, mais aussi pour la population, l'accès aux médicaments est de plus en plus difficile lié au coût, effectivement, de la molécule.
Les premiers cas de choléra ont été signalés parmi les 360 000 déplacés haïtiens.
Valérie Crova, en Corée du Sud, on attend les résultats définitifs des élections législatives, mais d'après les sondages sortis des urnes, l'opposition de centre-gauche à Yoon Suk Yeol, déjà majoritaire au Parlement, est en passe de remporter une très large victoire. Si le Parti démocrate remporte au moins 200 sièges sur 300, il pourrait lancer une procédure de destitution à l'encontre du président conservateur.
De combien de magistrats supplémentaires la France a-t-elle besoin ?
Une question qui intéresse les magistrats en exercice eux-mêmes qui croulent sous les dossiers. Aujourd'hui, des organisations syndicales demandent au ministère de la Justice de rendre publique une évaluation interne sur le sujet qui, selon eux, met en lumière qu'il y a besoin de plus d'effectifs, que les 1500 créations de postes revendiquées par Éric Dupond-Moretti ne sont pas suffisantes.
Bonsoir Ludovic Fria.
Bonsoir.
Vous êtes le président de l'Union syndicale des magistrats. Est-ce que vous savez précisément ce qu'elle dit, cette audite, je ne sais pas si le mot est approprié, qui semble expliquer effectivement avec combien de magistrats la France pourrait fonctionner dans de bonnes conditions. Elle donne des chiffres ou pas ?
Elle donne des chiffres. Le problème, c'est qu'on ne les a pas. C'est un travail, en fait, si vous voulez, auquel on participe depuis déjà plus de 2 ans. Ce travail, c'est quoi l'idée ? C'est avoir un outil nécessaire pour objectiver, quantifier au niveau national le nombre de magistrats nécessaires en fonction du volume d'affaires à traiter dans une optique de justice de qualité, pas une justice dégradée ou adaptée. C'est un outil qui a été demandé à la fois par la Cour des comptes et par Bercy, donc c'est pas une lubie syndicale, mais c'est aussi un outil qui est sans cesse reporté depuis des années.
Et alors, pour expliquer aux gens, avec des magistrats, avec des syndicats, ça dure depuis 2 ans, c'est un travail de longue haleine.
C'est ça, c'est un travail de longue haleine, puis c'est un travail de spécialistes, puisqu'il y a à la fois la chancellerie, il y a à la fois des organisations syndicales de magistrats, mais également des représentants des chefs de cour ou de tribunaux, des représentants d'associations professionnelles, donc c'est réellement un travail pointu, un travail consensuel avec la création de tables de calcul. En gros, c'est avoir une idée, un calibrage du temps nécessaire par type de dossier, civil, pénal, et avoir des projections en termes de besoins RH. Et ça, effectivement, on attend ces projections, on attend les réunions conclusives, ces projections, parce que on sait déjà que par rapport à certains, on va dire, contentieux, par exemple l'instruction, on sait déjà que l'idée, pour que la justice fonctionne bien, il faudrait qu'on ait entre 2 et 3 fois plus de magistrats, peu ou prou des chiffres de nos voisins européens.
Et on en est loin, j'ai cru comprendre qu'un certain nombre de chiffres avaient été dévoilés, mais pas tous. Est-ce que c'est le cas ? On semble dire chez les syndicats qu'on a donné quelques informations de départ et puis qu'on s'est arrêté net, en fait.
C'est un peu ce qu'on a vécu déjà depuis 20 ans, parce que ça fait 20 ans qu'on tourne autour du pot, ça fait 20 ans qu'on travaille là-dessus. À un moment donné, on avance, à des moments donnés, on s'arrête, puis on a l'impression qu'on s'arrête, effectivement, qu'on arrive au niveau de l'addition, parce que la France est tellement loin des standards européens que l'addition, on va dire, à la fois économique et politique est peut-être trop chère à payer. Mais si on veut réellement, et sans rotomondade, diviser par 2 les stocks et les délais, il faudra passer par là. Il faudra faire une justice à la fois quantitative, mais aussi qualitative.
Et diviser par 2 les stocks et les délais, comme vous dites, c'est ce qui a été promis et c'est censé être un objectif. En même temps, 3 hausses de budget successives, 3 hausses historiques, ça, historique, ce sont les mots du ministre, mais 3 hausses, c'est une réalité aussi, Ludovic Fria.
Je ne conteste pas qu'elle soit historique. Moi, ce que je souhaite, c'est que ces chiffres qui sortent de ce travail collectif soient connus. Mmh. Après, ces chiffres, ils peuvent être effectivement discutés, ils peuvent être améliorés, mais il faut à un moment donné qu'on les mette sur la table pour pouvoir en discuter, qu'on n'ait pas l'impression que certaines choses sont cachées ou qu'on ait travaillé pour rien. L'idée, c'est clair, c'est que 1500 postes de magistrats en plus, 1800 postes de greffiers en plus, c'est bien, mais sans doute c'est le cap, c'est le bon cap, le très bon cap, mais c'est pas le port d'arrivée. Donc pour pouvoir et se projeter dans l'après, il faut qu'on ait ces chiffres, qu'on en dispose.
Rapidement, Ludovic Fria, multiplier par 2 ou 3 le nombre de magistrats, comme vous le disiez tout à l'heure, est-ce qu'on a de toute façon les moyens de le faire ? Est-ce qu'on a les moyens en hommes et en femmes de le faire et de le faire rapidement ?
On est sur effectivement une projection à 10, 15 ou 20 ans. Mais je veux dire par là, on le voit bien, là on va créer 1500 magistrats en plus en un quinquennat. C'est compliqué, c'est difficile, il faut les recruter, il faut les former. Il faut qu'on puisse se projeter sur le long terme. Et se projeter sur le long terme, c'est maintenant. C'est pas effectivement à la fin du quinquennat qu'il faudra se dire ben, en fait, on n'a pas assez de magistrats ou pas encore tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on réfléchit ? C'est maintenant qu'il faut réfléchir.
Ludovic Fria, vous êtes le président de l'Union syndical des magistrats. Merci beaucoup.
L'actualité ce soir, c'est aussi le parquet de Valence qui donne les premiers détails après la mort d'un jeune de 15 ans à Romans-sur-Isère la nuit dernière. Il a reçu un coup de couteau en tentant de s'interposer lors d'une altercation entre adolescents, indique le procureur qui précise qu'un individu, je cite, en lien avec les suspects, a été interpellé.
Ça ne dure qu'une heure, mais ça peut sauver des vies.
Donner son sang, c'est important toute l'année, mais encore plus au printemps, parce qu'avec les ponts de mai, les jours fériés, il y a moins de jours de collecte, il faut donc faire des réserves. Sauf que pour l'instant, elles sont trop faibles, d'où l'appel ce soir d'Hervé Menrad. Il est directeur de la collecte et de la production pour l'EFS, l'établissement français du sang.
La situation est en train de se tendre. En fait, on a une fréquentation de nos collectes depuis 4 semaines maintenant qui n'est pas satisfaisante et les réserves qu'on voulait préparer pour la période des ponts de mai n'est pas au niveau qu'on souhaite et donc on commence à s'inquiéter. Il nous manque 10 000 poches qu'on n'a pas pu collecter sur les 4 dernières semaines et donc on a aujourd'hui à peu près 180 000 rendez-vous qu'on met à disposition des Français, des donneurs pour venir donner leur sang et donc on sollicite tout le monde pour venir dès à présent. Il y a des personnes qui commence à être en congé, donc même pendant les congés, on peut donner son sang. On a 104 maisons du don sur le territoire, 100 de collectes mobiles qui sont organisées tous les jours. Et pendant les périodes de vacances, on renforce notre présence sur les lieux de villégiature, hein, notamment sur la côte. Donc même en déplacement dans des congés, on offre la possibilité de donner son sang à proximité de là où se trouvent les Français.
Hervé Menrad de l'EFS avec Victor Dolan. Je rappelle quelques-unes des conditions pour pouvoir donner, être majeur, en bonne santé et peser au moins 50 kilos. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site internet de l'établissement français du sang.
ChatGPT au générique, comme n'importe quel membre d'une équipe.
Mais oui, l'outil d'intelligence artificielle a été pour la première fois crédité par Disney sur une série indienne Save the Tigers. ChatGPT utilisé pour écrire les paroles d'une chanson dans ce cas précis, de quoi énerver les acteurs et les scénaristes d'Hollywood qui ont fait grève, on s'en rappelle, il y a quelques mois, justement pour obtenir des garanties sur l'utilisation de l'IA dans leur métier. Quand en France va se tenir un festival de courts-métrages ayant recours justement à l'intelligence artificielle. Ce sera à Paris en novembre. Bonsoir Adrien Serrière.
Bonsoir.
C'est organisé par Artefact, une société de conseil en IA, mais aussi par un acteur très important du cinéma français, MK2.
Oui, MK2, acteur majeur du cinéma d'art et d'essai, et pionnier en matière de nouvelles technologies, réalité virtuelle, 3D. Mais face à l'émergence de l'intelligence artificielle, le directeur général des cinémas MK2, Elisha Karmitz, reste tout de même prudent.
Il y a beaucoup d'inquiétudes à ce niveau-là qu'on partage avec l'ensemble de la culture. L'inquiétude ne veut pas dire qu'il faut qu'on reste immobile ou attentiste, puisque cette technologie évolue, va très vite. Pour mieux l'appréhender, on pense justement qu'il faut aussi créer des initiatives et commencer à engager le débat et le dialogue avec le plus grand nombre.
Car aujourd'hui, l'IA peut intervenir à quasiment chaque étape de la création d'un film, écrire un scénario, générer des images, améliorer la bande-son, le doublage, la traduction ou les effets spéciaux. Mais elle reste incapable de se substituer au travail humain, rappelle Vincent Luciani, cofondateur d'Artefact et organisateur du festival.
À la fois, l'IA est partout. Donc, c'est-à-dire qu'elle est présente sur toute la chaîne de la valeur et à la fois, elle est nulle part dans le sens où, en fait, il faut retravailler systématiquement. Il n'y a pas de contenu qui est d'un niveau professionnel de qualité qui est immédiatement disponible. Le but, c'est de montrer l'étendue des possibilités et d'encourager l'expérimentation. C'est vraiment un outil qui est au service de la création.
Avec ce festival de courts-métrages, Artefact veut donc montrer les perspectives offertes au cinéma par l'intelligence artificielle, mais aussi ses limites. Et c'est le réalisateur Jean-Pierre Jeunet, féru d'innovation, qui présidera le jury.
Adrien Serrière, service numérique de France Inter. Un mot de sport pour vous dire qu'en cyclisme, Benoît Cosnefroy a remporté la Flèche Brabançonne, première classique ardennaise de la saison. Aujourd'hui, le Français de l'équipe Décathlon à G2R La Mondiale a réglé le groupe des favoris au sprint. Et puis en foot, le PSG retrouve ce soir son meilleur ennemi, responsable aussi de ses pires cauchemars européens. Le FC Barcelone est attendu au Parc des Princes à 21h, quart de finale aller de la Ligue des Champions.
J'ai envie de dire oulala. Merci beaucoup. Ouais, ça fait peur. Merci beaucoup, Kevin. Vous reviendrez dans Un jour dans le monde et ce sera pour Sous les radars. Un œil sur le ciel avant de nous lancer.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Et Olivier Proust, bonsoir. La douceur s'installe partout demain.
Bonsoir Fabienne. Oui, la nuit alors sera un peu fraîche dans le nord-est, avec même quelques gelées faibles possibles. Mais en journée, les températures seront partout en nette hausse, avec 15 à 23 du nord au sud. Et c'est pas fini. Vendredi s'annonce largement ensoleillé, encore plus doux. Et samedi, ça sera carrément chaud, avec les 25 degrés atteints dans la moitié nord, jusqu'à 30 dans le sud.
Et côté ciel ?
Alors la perturbation arrivée aujourd'hui dans le nord-ouest donnera demain un ciel très chargé sur le nord du pays. Il le restera toute la journée au nord de la Loire, mais seule la Normandie et les Hauts-de-France verront passer quelques gouttes. Et de l'autre côté, entre Corse et Côte d'Azur, on aura encore quelques petites averses en matinée qui se dissiperont bien vite. Mistral et Tramontane seront en baisse et finalement, mis à part quelques grisailles fugaces dans le sud-ouest, la journée sera bien ensoleillée dans la moitié sud et sur la façade est.
Et merci beaucoup Olivier Proust.